Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je commence par chacune parce que dans les métiers du Caire, quand même, il y a un maximum de femmes. Donc, je connais un certain nombre de personnes, mais pas tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Palomino, je suis médecin psychiatre, addictologue. J'ai été généraliste, médecin généraliste quelque temps, pas très longtemps, puis psychiatre pendant un certain nombre d'années avant de me spécialiser. Mais ça fait longtemps que je m'occupe personne addict. La couleur de mes cheveux on peut en témoigner. Je suis jeune depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Et j'ai eu la chance de mettre sur pied un service en 1990. Une partie d'entre vous n'était pas née. À l'époque, c'était une unité d'alcoolologie. L'unification des conduites addictives, c'était encore balbutiant et c'est devenu assez rapidement une unité d'addictologie de niveau 2 de soins complexes. Alors, j'ai plaisir à venir ici parce que je fais mes études ici. J'ai plaisir à croiser Marc et je vais raconter une toute petite anecdote qu'il ne connaît pas. Son chef de l'époque, c'était le professeur Tignol et ça a été mon conducteur de mémoire en psychiatrie. Et j'arrive voir ce professeur Tignol avec un sujet de mémoire en psychiatrie. En tant que généraliste, j'avais fait de la géronto et donc j'avais un sujet en gériatrie. Psychiatrie, truc. Je lui explique mon truc, il me dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Il sort un truc, voilà, vous allez travailler sur sexualité et personnes âgées. Je suis sorti les bras comme ça. Et j'ai pas regretté. Et vous allez dire, quel est le rapport avec la choucroute? C'est que j'ai découvert les pathologies complexes. Et pour moi, ce n'est pas un petit terme, c'est un terme très important. Complexe, c'est plus compliqué que compliqué. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à Prigogine, il y a un prix Nobel pour ça, Henri Atlan et Edgar Morin, 102 ans. Ce sont des pathologies où le lien de causalité est difficile, sinon impossible à établir. Ça fout en l'air la médecine occidentale. La médecine, la richesse, la force de la médecine occidentale, c'est la causalité linéaire. Ah, vous avez un symptôme, ben de la fièvre. C'est bien de soigner la fièvre, c'est plus confortable. Il faut soigner la cause. Les médecins ont inventé un mot, l'étiologie. Et j'ai encore des paroles d'un chef de service quand je finissais mes études de médecine générale. La médecine, c'est pas compliqué. Premièrement, l'étiologie. Deuxièmement, l'étiologie. Troisièmement, l'étiologie. Ça, c'est la causalité linéaire. Et les pathologies complexes ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire que quand un être humain met en place un comportement, une conduite, il y a peut-être des forces en arrière dans le temps qui me poussent. Je fais ça parce que, mais je fais ça aussi pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire des causes dans le futur. Ça, c'est pas occidental. Et quand je fais des formations pour des étudiants orientaux, ils saisissent tout de suite. C'est pas un problème. Je sais pas si c'est l'histoire de yin et de yang. Le blanc et le noir se mélangent, le vrai et le faux se mélangent. Hier, aujourd'hui, demain, ça se mélange. Mais ça, c'est très parlant si vous occupez d'addiction, parce que vous ne pouvez pas trouver des facteurs d'étiologie bien nets. Parce qu'on trouve des facteurs de vulnérabilité, des facteurs favorisants, ou non. Mais tout ça est travaillé par la flèche du temps. Et les années passant, vous ne pouvez pas clairement distinguer ce qui est cause et conséquence. Donc moi, en 1990, j'ai eu la chance, pas tout seul, de créer ce centre. Alors, je viens de Jonzac. Quand il n'y a pas de bouchon, c'est une heure de route, à mi-chemin, entre Bordeaux et La Rochelle. Une mégalopole de 3800 habitants. Mais on reçoit des patients de toute la France. Non, y a pas... Et donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. Donc, je ne pense pas que vous êtes des nuls. Ou alors, je le suis autant que vous. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que la toute-puissance médicale, ça ne vaut pas grand-chose dans les addictions. Et soit vous acceptez votre impuissance au départ et vous pouvez continuer quelque temps, soit vous acceptez rapidement, soit vous partez. Parce que vous avez beau mettre en place des tas de choses, la réalité de l'évolution des gens, elle ne dépend pas beaucoup de ce qu'on va mettre en place. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi le titre ni le contenu. Alors je vais essayer de m'y tenir à peu près. À peu près. C'est quoi une addiction? Eh bien, vous avez eu tout à l'heure ce que dit la science. Moi, je vais plus vous parler de 33 ans de pratique Et j'ai vu pendant plus de 33 ans entre 400 et 500 patients par an. Donc je voulais faire des... bottom-top, et non pas top-down. Donc qu'est-ce que les gens disent quand ils ouvrent les yeux sur leur dépendance, leur addiction? Alors, c'est pas exactement pareil, addiction et dépendance, mais aujourd'hui, j'utiliserai l'un pour l'autre, sans faire de distinction très claire. Quand les gens ouvrent les yeux, c'est quoi leur mot à eux? Certains font référence au fait que je ne peux pas m'en empêcher. Alors vous avez des variations. Je dis bien quand quelqu'un a ouvert les yeux. Ça peut prendre des années, voire des décennies pour ouvrir les yeux. Supposons qu'il ou elle a ouvert les yeux, c'est quoi ces mots à lui ou elle? Ben, je ne peux pas m'en empêcher de consommer, ou si c'est une conduite comportementale, de mettre en place cette conduite. Je ne peux pas m'en dispenser. Je ne peux pas m'en passer. Certains rajoutent, soit en permanence, soit à certains moments. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas consommer à certains moments, et puis il y a des moments où ils ne peuvent pas. Une expression subjective assez fédérative, c'est plus fort que moi. Je vous encourage à la retenir parce que c'est celle qui permet éventuellement d'avancer dans la construction thérapeutique, de l'alliance thérapeutique, pardon, qui n'est pas un donné. L'alliance thérapeutique, si j'ai une jambe cassée, je vois un chirurgien, voilà, c'est clair, hein, c'est, le mal est bien identifié, c'est mon os qui est cassé, c'est moi qui suis malade, c'est vous qui êtes expert des os cassés, donc ensemble on va créer une alliance pour faire en sorte que l'os soit le mieux réparé possible. Conduite addictive, sur quoi il faut tirer? Sur le produit? C'est ce que fait la famille les premières années. Alors, j'ai aussi une formation de thérapeute familial, donc dès 1990, je suis beaucoup intéressé aux familles. Comme facteur éventuellement de maintien ou de facteur d'aide pour un changement. Et donc, les familles au début tirent sur le produit. On essaye d'enlever la carte bleue, de faire en sorte de surveiller la personne pour ne pas qu'elle aille se ravitailler, etc. Et puis après, on trouve que le produit revient tout le temps. On ferme la porte, il rentre par la fenêtre, on ferme la fenêtre, il rentre par la cheminée. C'est, mais c'est lui ou elle qui le fait rentrer. Donc, on met en place des stratégies de contention de la personne. Donc, enlever les clés de la voiture, enlever l'argent, créer des situations où la personne ne puisse pas se ravitailler. Ben, il se ravitaille quand même. Ouais. Et j'ai vu des gens, moi, en fauteuil roulant, cher ami, se ravitailler, et je ne sais pas comment. Parce que la famille était très attentive, mais on se ravitaille quand même. Et donc, cette alliance thérapeutique n'est pas un donné, il faut la construire. Or, il y a beaucoup d'étapes pour construire, il y a plein de pièges dans cette construction de l'alliance thérapeutique. Je continue un peu et je reviendrai après sur la construction de l'alliance. Alors, je n'ai pas de PowerPoint, donc ça vous oblige à m'écouter et à me regarder, puisque vous savez qu'une partie de la communication ne passe pas par les mots. Elle passe par les traits du visage, les postures. Et encore, la communication, ce n'est pas la rencontre. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à David Le Breton, qui fait un distinguo entre communiquer et rencontrer. Et d'ailleurs, il dit que nous sommes une société fortement communicante, mais faiblement rencontrante. Or, ces patients, ça ne suffit pas de communiquer avec eux, il faut les rencontrer. C'est-à-dire, après qu'on se soit percuté, si j'ose dire, un peu comme dans le cyclotron, eh ben, on est un peu différent. Lui ou elle, et moi aussi. Quels sont les autres mots? D'autres mots ont trait à la notion de liberté. Je suis devenu esclave, c'est ce que j'entends pour les clopes. Prisonnier, il y en a qui vont moins loin, esclave, prisonnier. J'ai perdu la liberté de consommer d'une certaine manière. D'autres disent, j'ai perdu le choix, la liberté de choisir. Vous pouvez choisir de prendre une bière fraîche ou 10, ou une cuite ou 0. Moi, je choisis de consommer, point. Donc, s'il n'y a pas deux alternatives, il n'y a pas de choix. D'autres insistent sur le fait qu'il n'y a pas de choix, c'est une contrainte. Et certains disent, mais avant, je consommais parce que j'en avais envie, maintenant, je consomme parce que j'en ai besoin. Et c'est très important dans notre tête que nous distinguions envie et besoin, parce que ça a été évoqué tout à l'heure par Marc. Une envie, ben, je peux décider, j'ai envie d'une tasse de café, c'est pas le moment de la prendre devant vous, je la prendrai tout à l'heure après manger. C'est-à-dire que me projeter sur consommer, ne consommer possible, et l'enlever est possible, il suffit de m'appuyer sur la volonté. J'ai la volonté de ne pas prendre ma tasse de café maintenant, je la prendrai tout à l'heure. Et quand je diffère une envie, peut-être qu'au bout d'un moment, j'y penserai plus. Un besoin, c'est une autre paire de manches. Si j'ai un peu envie d'aller à la selle, pardon, cet exemple un peu trivial, mais j'ai écouté sur la route l'autre jour, les selles, les banques de selles, 2 kilos de bactéries qu'on a là, et ben, je peux me retenir avec la volonté, je peux contracter. Alors c'est lequel, le releveur de l'anus. Mais si j'ai une diarrhée carabinée, c'est où j'y vais, où j'y vais. C'est-à-dire qu'une absence de choix. Il est très important que nous, les professionnels de santé, on intègre ça. C'est-à-dire, ce patient, il a envie, il a besoin. C'est-à-dire que la notion de volonté disparaît. Je me souviens d'un exemple que m'avait donné une infirmière, il y a très longtemps, en formation, elle me dit, mais moi, quand j'ai accouché, la sage-femme qui s'occupait de moi, elle n'avait pas d'enfant. À un moment donné, elle me dit, mais arrêtez les contractions. Elle dit, mais je peux plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous dépasse. C'est plus fort que nous. Donc il y en a qui insistent là-dessus. D'autres insistent sur l'apparition de signes de manque si je m'en passe. Si je m'en dispense, dispenser, passer outre. D'ailleurs, être dépendant, l'étymologie, c'est être pendu à, suspendu à. C'est rester dans une expression. Il est pendu au téléphone toute la journée. Il est pendu au comptoir toute la journée. Ça ne veut pas dire qu'il a le téléphone autour du cou ou une chaîne qui... Ben, c'est une chaîne virtuelle, mais efficace quand même. Il ne s'éloigne pas du téléphone, il ne s'éloigne pas du comptoir. Donc, il y a cette espèce d'apparition de signes de manque. Si je m'expose au manque, si je ne prends pas le produit, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un petit détail qui n'est pas forcément un. C'est-à-dire que certaines personnes vont tout de suite coder, ça c'est du manque. Alors les signes de manque peuvent être physiques et ou psychologiques. Ça dépend du produit, ça dépend de l'ancienneté, de l'intensité, des racines, etc., tout ce qu'on veut. Ça change la donne. Si c'est une dépendance que psychologique, que des obsessions, du craving des pensées, c'est une chose. Si je ne consomme pas et que je fais une crise d'épilepsie parce que je n'ai pas consommé, c'est pas du même niveau. Ça, c'est à prendre aussi en considération. Si le patient décide d'entrer dans un processus de sevrage, donc il faut un peu évaluer ça. J'ai vu des gens qui ne codaient pas, ça c'est du manque. Ils disaient, mais non, quand je ne consomme pas, je ne suis pas bien parce que ce produit me fait du bien. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à piger ce truc. Mais ça se rapproche de, mettons vous êtes céphalalgique, et l'aspirine vous va bien. Et vous en prenez tous les jours. Et moi je vous dis, mais t'es accro à l'aspirine. Je vais dire, non, non, j'ai mal. Et si je n'apprends pas, je suis malade, donc je ne suis pas accro à l'aspirine, c'est tout simplement que ça me soigne efficacement. Et donc l'idée que j'en suis esclave, ça peut se faire automatiquement. Quand je ne consomme pas, j'ai tel et tel signe psychologique et physique, et tout de suite j'y pense, mais ce n'est pas automatique forcément. Ça s'accompagne. D'autres personnes s'intéressent à la notion de perte de contrôle. Ça, c'est plus les jeunes. Les jeunes, ils intériorisent très vite les ambiances culturelles, et j'ai envie de dire idéologiques. Et l'Occident a remplacé les anciens dieux par des nouveaux dieux. Au sommet de l'Olympe, il y a argent, c'est pas un scoop pour vous. Mais très vite, il y a contrôle-maîtrise. Et j'ai entendu hier notre ministre de l'économie dire « Nous avons réussi notre plan, nous maîtrisons l'inflation. Elle est en dessous de 4% en rythme annuel. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il s'avance un peu. Parce que l'inflation, ce n'est pas un phénomène compliqué, c'est un phénomène complexe. Et dans les phénomènes complexes, vous bougez un ou deux paramètres, vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer, parce que vous créez des boucles rétroactives positives, des boucles rétroactives négatives. Au bout, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Donc, je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'expliquer ça à Bruno Le Maire. Mais s'il me téléphonait, j'aimerais bien discuter un petit moment avec lui. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Bah oui, on sait bien. C'est-à-dire que l'Occident, de mon point de vue, s'illusionne, qu'il maîtrise, qu'ils contrôlent, qu'ils gèrent. Les jeunes reprennent ça à leur compte. Donc quand un jeune ouvre les yeux sur son addiction, c'est souvent « je suis addict » ou « addicté ». Ça classe quand même. Hein. Si je suis « je suis alcoolo », je suis addict, docteur. Il y a même un parfum qui porte mon nom. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais il faudra qu'un jour le fasse, parce que j'en ai entendu parler plein de fois. On m'a dit que ça sentait très bon. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont aujourd'hui? Parce que je veux bien faire l'économie d'acheter un flacon. Ils sont bons, les gens du marketing. On parlait tout à l'heure de « c'est plus fort ». À une époque, les consoles Sega avaient sorti ça comme argument marketing. « Sega, c'est plus fort que toi ». Je me disais, allez, champion, les salauds. Parce que, à l'adolescence, évidemment que tu vas pas être plus fort que moi. Ben oui, c'est le processus addictif qui va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Je suis addict ou addicté? Ils disent, il faut m'aider parce que je ne gère plus. Avant, je gérais. Mais là, je gère plus. Je ne contrôle plus. Je ne maîtrise plus. Je gouverne plus. Bref, une perte de contrôle, nous, on va dire. Après, il y a des mots moins... Alors, ça, c'est les jeunes. Les vieux, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez une idée?
Qu'est-ce qu'ils disent, les vieux, Marc?
Je suis trop vieux.
Bienvenue au club.
Eh bien, les vieux, des fois, ils disent, il faut m'aider, je suis devenu tributaire. Tributaire. De mon produit, du somnifère, etc. C'est génial, parce que les vieux ignorent l'étymologie. Mais ça se rapproche d'addiction. Avoir un tribut, une contribution, vous avez ça dans les contributions directes et indirectes, une dette. Et certains disent, mais je peux ne pas consommer un jour, deux jours, trois jours. Même une semaine, même des fois deux semaines. Mais quand je mets le nez dedans, c'est plus fort que moi. Alors là, il faut que je boive tout ce que j'ai pas bu pendant 15 jours, plus 10%. Bah ouais, c'est les impôts, c'est pareil. Si vous payez pas en temps voulu, bah, il faut payer plus 10%. Non. Après, vous avez des mots moins fréquents, c'est... Être assujetti. J'aime bien ce terme parce que il résume un peu presque toutes les thérapies. Si je suis privé de ma dimension de sujet assujetti, c'est quoi les thérapies? Essayer de cette personne à ce qu'elle ne soit pas objet de son addiction, mais sujet qui maîtrise son destin, sa vie. Au cas où j'oublie de le dire plus tard, les soins n'ont pas pour objectif de changer le comportement addictif. Les soins ont pour objectif d'aider la personne à vivre mieux. Changer le comportement addictif est un moyen. Et si je confonds les moyens et les buts, il y a des chances que mon patient les confonde. Et la plupart des patients et la plupart des familles confondent. Pourquoi il ou elle là? Ben pour arrêter de boire, pour arrêter de ceci, pour arrêter de cela. Non, non, non. Pour que la vie soit meilleure, si possible, et qu'on puisse l'organiser, faire des projets, et s'y tenir et les réaliser. Pour y arriver, c'est mieux, dans certains cas, de ne pas consommer, de consommer moins, d'avoir des traitements de substitution, etc. Mais il ne faut pas confondre les moyens et les buts. Voilà, c'est dit, parce que j'ai peur d'oublier. Et donc, j'entends assujetti, certains, c'est plus rare, subordonné. Je suis subordonné à, c'est-à-dire le produit est au-dessus de moi, et moi je suis au-dessous, et en même temps tributaire, assujetti, comme à la sécu, assujetti. Nos amis québécois, ils parlent d'assuétude. J'aime bien ce terme parce que je l'entends peu ici. C'est assujettissement et habitude. C'est une habitude qui s'est ancrée, qui s'est enracinée et qui est devenue vraiment difficile et voilà, qui m'aliène un peu. Certains parlent d'aliénation. C'est plus rare. Ils disent, mais c'est un truc bizarre. On dirait que c'est pas moi. Certains m'ont dit, est-ce que je peux être contrôlé par autrui? Victime de télépathie. Ben, pas vraiment, mais on peut en parler. Certains me disent, c'est bizarre parce que vous passez à côté d'une bouteille et vous ne sautez pas dessus. Bon, oui. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était une blague. Non, j'ai entendu plusieurs fois. Et c'est vécu comme quelque chose d'étrange. Suis-je fou? Est-ce que tout le monde est comme ça? C'est pas normal, ça, quand même. Elle me saute dessus. Ça dépend pas de moi, quoi. Qu'est-ce que j'entends encore? Ah oui, les signes de manque éventuels, les obsessions. Alors les gens ne disent pas souvent obsession, ils disent plutôt « je suis polarisé, focalisé, obnubilé ». Nous, on va dire « obsession, craving ». Certains disent « c'est bizarre, c'est comme une pulsion ». C'est un truc qui me pousse par l'air pour aller vers le produit, quoi. Une pulsion. Nous, on va dire « compulsion ». Parce que les médecins, on aime bien inventer des mots pour que tout le monde pipe pas, quand même, qu'on soit un peu entre nous. C'est pareil. D'autres parlent plus d'attraction. C'est pas quelque chose dans le dos qui me pousse, c'est quelque chose qui me tire comme ça. Ils parlent de magnétisme. Ils disent c'est bizarre, je suis magnétisé par le produit. Etc. Où est-ce que je veux en venir? C'est très différent d'une personne à l'autre. Si vous faites venir 100 addictologues, vous aurez 100 discours un peu différents. Parce que l'objet d'étude est très hétérogène, très varié. Vous prenez 100 personnes addictes à 100 produits différents, vous avez 100 situations différentes. Vous prenez 100 personnes addictes au même produit, vous avez 100 situations différentes. C'est très hétérogène, il faut retenir ça. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner des mots qui sont assez fédérateurs. Et dans cette liste que je viens de faire, pensez, c'est plus fort que vous. Si à un moment donné, dans la construction de l'alliance, qui n'est pas donnée a priori, c'est le job, hein, d'abord faire une bonne rencontre, puis construire l'alliance, puis mettre en place un programme. Je dirais plus d'accompagnement que de prise en charge. Si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Donc voilà pour l'hétérogénéité. Ensuite, la dépendance, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça a été dit déjà en partie ce matin. Ça n'est pas une pathologie de l'intoxication. Or, le langage à la peau dure. Aller faire une cure de désintoxication. Non, pas du tout. Si je vais, alcoolodépendant, je vais dans un centre pour me désintoxiquer, il ne me passe pas du charbon pour absorber les molécules dans mon estomac. Il ne m'envoie pas au rein artificiel pour m'enlever. Non. Dans les 24 heures qui suivent, j'ai zéro alcool, je suis détoxiqué. Mais c'est pas ça. J'y vais pour un sevrage. Un sevrage, c'est quoi? Mon cerveau est équilibré avec. Si vous le retirez, mon cerveau et mon corps, parfois, est déséquilibré. Et le sevrage, c'est traiter ce déséquilibre pour que le corps et le cerveau puissent être à peu près équilibrés. Sans. Mais c'est pas de la détoxication. Et d'ailleurs, on dit, oh, il prend des toxiques. Mais il y a des substances psychoactives qui sont toxiques. Si vous voulez mourir, le tabac, c'est quand même le plus efficace. Si vous prenez du tabac, vous avez 50% de chances de mourir. C'est génial. Vous connaissez à l'avance la cause de votre décès. Moi, je ne fume pas, donc je ne sais pas de quoi je vais crever. C'est vachement angoissant, c'est un truc à faire un infarctus. Donc vous avez du bol, les fumeurs, puisque quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu à l'entrée deux personnes qui fumaient compulsivement avant de rentrer. Je me dis, bon, est-ce qu'elles savent ça? Le Covid, ça fait sur la planète, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 millions de morts. La première vague particulièrement. Le tabac, c'est 6 à 7 millions tous les ans depuis 80 ans. Vous connaissez une guerre qui fait 6 à 7 millions de morts par an? Mais c'est légal. Mais le tabac, si vous voulez mourir, c'est le plus efficace. Messieurs, si vous voulez être impuissant avant l'âge, c'est le plus efficace. Mesdames, si vous voulez avoir une sécheresse vaginale avant l'âge, c'est le plus efficace. Et si vous voulez être hémiplégique, paraplégique, tout ce que vous voulez, aphasique, avant l'âge, c'est le plus efficace. Mais le tabac, ça fout pas en l'air la vie intrapsychique, la vie relationnelle, la vie sociale. J'ai jamais vu un patient qui me dit « je vois plus mon père depuis 30 ans parce que quand j'étais petit, il fumait du tabac ». Je vois ça pour d'autres conduites addictives. Donc, c'est la plus efficace pour crever. Mais ça fout pas en l'air l'équilibre intrapsychique, relationnel et le rapport au monde. Je peux être chercheur ultra performant et fumer. D'ailleurs, dans ma génération, quand moi j'étais en terminale, les trois quarts des garçons fumaient. Moi, je fumais pas. J'étais le mouton à cinq pattes. Et ma première bagnole, c'était une vieille deux chevaux. Je sais pas si vous connaissez le volume de l'habitacle d'une deux chevaux. Quand vous êtes cinq là-dedans, moi, en volant qui fume pas et les quatre autres qui fument, vous avez l'impression que vous allez crever. Alors j'ouvrais compulsivement la fenêtre, et puis elle tenait pas, j'étais obligé de la tenir. Quand je raconte à mes gosses que, quand ils étaient plus petits, que je leur dis que moi j'ai fait la visite en cardiologie avec le médecin-chef, comme ça, qui s'asseyait sur le lit, et qui discutait avec les jeunes internes. Hein? Mes gosses ne me croient pas. Ils me disent, mais t'es né avant ou après les dinosaures? D'ailleurs, si on m'avait dit qu'un jour, dans un troquet, on ne pourrait pas fumer, à l'époque, j'aurais jamais cru. Jamais j'aurais cru ça. En plus, ma famille est d'origine espagnole. Et quand on m'a dit qu'en Espagne, dans un troquet, on ne fumait pas, je me dis, mais c'est pas possible, ça. C'est possible, ça. Ben si, les gens ont fini par accepter très bien. Donc j'en ai perdu un tout petit peu le fil. Qui suis ? Qu'est-ce que je disais avant, toutes ces digressions ? Ben je vous vois prendre des notes. Non, que l'addiction ? Oui, il y en a partout, mais c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. À tous les cas. Voilà. Ce n'est pas une intoxication. Ça n'empêche pas que si je suis addict à la nicotine, je prends un produit qui est un poison et qui me tue. Si je prends du cannabis, ça me tue, c'est méchamment bien plus que ce que les jeunes croient. Ma génération, le cannabis, c'était vert. Donc c'était écologique. Donc c'est inoffensif. Alors que le vieux jus de la treille, la mauve, qui fait des taches, le gros rouge qui tache, ça devait être très mauvais. On avait oublié que la manisphaloïde, c'est naturel. Que la belladone, c'était naturel. Que la ciguë, c'était naturel. Que ce n'était pas très très bon pour la santé. Donc, ce n'est pas une pathologie de la toxicité, même si un certain nombre de produits sont très toxiques. Et cette dimension-là, en termes de complications somatiques, il va falloir y réfléchir, en tenir compte. Ce n'est pas une pathologie de l'excès. Ça a été dit dans ce qu'on a vu là sur Internet. Pour beaucoup d'êtres humains, ça reste ça. Et les familles aussi. Donc il va falloir débroussailler un peu ça avec la famille. Pour la plupart des citoyens chez nous, un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit trop. Ben non, c'est quelqu'un qui est accro. Et c'est pas pareil. Est-ce que c'est un symptôme, une addiction ? Personne n'ose se prononcer. Est-ce que c'est un syndrome, plutôt ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est une déviance ? Une marginalité sociale ? C'est un peu de tout ça à la fois. Alors ma génération, si vous n'aviez pas fait un peu de psychanalyse, vous étiez collé à tous les examens. Donc pour un psychanalyste, c'est un épiphénomène, c'est un symptôme. Et encore symptôme, ça n'a pas la même définition que pour un médecin somaticien. Oui, ça peut être le symptôme de quelque chose qui va mal. Mais ce n'est pas automatique. On peut être normopathe et se faire piéger par les conduites addictives. On peut être névrosé normal et se faire piéger par les conduites addictives. Et c'est tout à la fois un symptôme, un syndrome, une maladie, peut-être dans certains cas une déviance, peu importe, mais est-ce que c'est le plus important ? Mais ça a un impact sur les familles. Parce que quand vous dites à une famille que c'est une maladie, les gens entendent. Donc, il ou elle n'est pas responsable. Vaste sujet. Vous savez que dans les années 50, vous tuez quelqu'un sur la route avec 5 grammes et votre responsabilité est atténuée parce qu'avec 5 grammes, on n'est plus tout à fait lucide. Aujourd'hui, elle est aggravée, votre responsabilité, parce que avant d'avoir 5 grammes, vous aviez 0. Et quand vous avez pris 5 grammes, vous savez que vous allez perdre votre lucidité et faire des conneries. Un schizophrène qui tuait père et mère il y a 50 ans, il était schizophrène. Il a l'HP. Point. Aujourd'hui, trois experts vont déterminer, oui, mais au moment où il a tué père et mère, il avait une abolition du discernement ou une altération du discernement, et donc il va être plus ou moins responsable et plus ou moins coupable. Donc c'est pas si simple. Donc moi, je dis aux familles, attention, je peux être malade, mais je suis responsable de mes paroles et de mes actes. Si j'ai 40 de fièvre et que je te donne une baffe, je suis malade, mais je suis responsable. Je n'ai pas le droit de donner une baffe, même si j'ai 40 de fièvre. Et donc, parce que j'ai vu des patients qui font des saloperies avec leur gamine, même petite. J'ai vu des trucs, j'ai vu, pas assisté, mais on m'a raconté des abus sexuels à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Des trucs, je ne savais même pas que ça existait à ce niveau-là, quoi. Et je me souviens d'une gamine plus âgée, une femme, mais qui me racontait plus gamine. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que Votre père, s'il n'avait pas bu, jamais il aurait fait ça. Mon père, il buvait pour le faire. Quand il n'avait pas bu, il allait boire pour pouvoir ensuite me violer. J'oublierai jamais cette patiente. Donc, on peut être malade et on peut être responsable. Encore faut-il distinguer responsabilité et culpabilité. Il y a quelques années, je faisais des cours à l'école de magistrature à Bordeaux. Et les légistes, les spécialistes du droit me disaient « Mais nous, on ne peut pas distinguer. Si vous êtes responsable, vous êtes coupable. » Pas si vous vous souvenez de l'histoire du sang contaminé avec une ministre de la Santé qui disait « Mais en tant que ministre de la Santé, je me sens responsable, mais je ne me sens pas coupable. » Alors ça avait fait le chou gras de la presse, etc. Je crois que c'était Georgina Dufoy. Et moi, ça m'avait interpellé, cette histoire, parce que moi, je pensais à un truc comme ça vis-à-vis de mes patients. Je ne m'y sens pas responsable d'être devenu dépendant, parce qu'il faudrait des données scientifiques pour dire tel produit, tu peux consommer jusqu'à là, mais pas au-delà, et pas en tant de temps, et pas au-delà. Sinon, tu deviendras dépendant. Mais non, on est tous différents. Donc, il n'est ni coupable, ni responsable d'être devenu dépendant. En revanche, moi, je considère responsable de mettre en place quelque chose ou pas pour son rétablissement. Et c'est important de garder cette distinction, non pas en tant que juriste apparemment, mais en tant que soignant, en tant qu'aidant. Donc voilà ce que ce n'est pas. Ensuite, il y a aussi des représentations qui tiennent à nous, qui vont nous gêner dans la rencontre réelle de cette personne, pas juste communiquer. Je pense qu'un des pièges de la rencontre, c'est le terme de prise en charge. Parce qu'assez souvent, en dehors du produit, c'est des gens qui ne se prennent pas en charge dans la vie. Et a fortiori, j'imagine, mais peut-être je me trompe, j'en sais rien, les gens handicapés, les cérébrolisés dont on m'a parlé avant de venir ici. Et donc, si je prends en charge cette personne, peut-être que moi, je vais développer mes compétences, mais est-ce que cette personne, dans mon esprit, il s'agit plutôt d'épauler, d'aider cette personne. Les termes des familles, c'est... Vous voulez dire qu'il faut l'épauler, mais pas faire à sa place ? Oui. Vous voulez dire qu'il faut qu'il se prenne en main, nous on va dire, il se prenne en charge. Oui, c'est-à-dire que un des objectifs du soin, c'est d'apporter de l'autonomie, de faire en sorte qu'il se prenne en charge, plus que je ne le prenne en charge. Parce que, étymologiquement, prendre en charge, c'est faire grimper sur notre dos. Alors après, on s'attend que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos. Ben oui, à force de prendre en charge, on finit par avoir mal au dos. Et donc, moi, si je prends en charge, je vais avoir peut-être des muscles au mollet, mais ce n'est pas le but. Un des pièges de cette rencontre, c'est de penser en symptômes et de chercher la cause. Encore une fois, pour les médecins, je vous jure, la médecine générale, c'est 9 ans aujourd'hui, psychiatrie, c'est 4 ans, et il y a toujours, il faut rechercher la cause. Ben oui, parce que c'est bien beau de se dire, j'aperçois une fumée, mais si une fumée, c'est qu'un feu, quelque part. Donc si on veut éteindre la fumée, il faut éteindre le feu. Ça marche pour la causalité linéaire, les systèmes compliqués, pas les systèmes complexes, qui ont des causalités circulaires. Après quelques années, vous ne pouvez pas distinguer cause et conséquence. Donc vous agissez sur l'un, puis vous obtenez un truc bizarre, l'opposé de vos attentes. Donc un des pièges, c'est la recherche trop prématurée de la cause. Rechercher la cause, si c'est l'intérêt du patient, why not ? Non, mais ça peut prendre du temps. Et puis on peut se tromper. Il y a ce qu'on appelle, nous, des causes écrans. Et derrière cette cause écran, il y en a deux ou trois. Vous savez, les gamins, quand ils ont 2 ans et demi, « Maman, papa, c'est pourquoi ?»«
Parce que... »«
Ah oui, mais pourquoi ?»«
Parce que... »«
Ah oui, mais pourquoi ?» Vous n'avez pas connu ça ? Ça vous parle un petit peu quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin ?« Parce que... » Et j'avais préconisé à une maman de lui dire ça, hein, en pensant que ça allait clore. Et la gamine lui dit, mais pourquoi ? Parce que... C'est-à-dire qu'en recherchant la cause ou les causes, derrière une cause, il y en a une autre, et on peut remonter à la création du monde. Donc il est plus utile de s'intéresser à comment faire pour que ça aille mieux qu'à chercher pourquoi on en est là. Pour moi, c'est... anticulturel. J'ai passé des années à apprendre le contraire. Donc ça m'a fait mal de laisser le pourquoi de côté. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes une ou un inconditionnel du pourquoi, je vous encourage à l'écrire en deux mots. Vous saisissez ? Dans quel but, au pluriel ? Le problème, c'est qu'en français à l'oral, on ne peut pas distinguer pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots. Et quand moi, je demande à un patient, mais pourquoi vous l'arrêtez ? Il n'y en a aucun qui voit qu'il y a deux questions. Il y en a qui me répondent « parce que » et d'autres « pour ». Des fois, c'est symétrique. « Parce que j'ai plus de permis pour le récupérer. » Mais des fois, ça n'a rien à voir. On n'a pas de bol avec le français à l'oral, parce que si on réfléchit en anglais, pourquoi en un seul mot, c'est comment ?
Why ?
Réponse ? Because, c'est la cause. Tout le monde n'a pas fait le lien. Ben aujourd'hui, vous l'avez fait. En un seul mot, c'est why. Et pourquoi en deux mots ? What for ? Qui a fait un peu d'allemand ? Warum ? Wofür ? On ne peut pas confondre à l'oral. Qui a fait un peu d'espagnol ? Por qué ? Para qué ? Un peu d'italien. Perché ? Perché cosa ? De l'arabe. Lèche ? À lèche. Du basque. Certaco, certalaco, du russe, pas de chez moi, et j'ai oublié la deuxième partie.
Attention, il y a des basques dans l'assemblée.
Vous confirmez ou vous infirmez ? Parce que des fois, il y a des variantes aussi, on m'a dit. Hein. Bon. En tous les cas, cette petite, cette petite chose simple de la langue française à l'oral, on ne peut pas distinguer. Si je dis à mon gamin de 5 ans, viens ici toi, en le prenant par le col de la chemise, pourquoi tu m'as volé 2 euros dans le porte-monnaie ? Ça s'écrit en un mot ou en deux mots ? Maintenant qu'on en a discuté, c'est plus compliqué. Mais si on n'en avait pas discuté, ça s'écrit en un mot. Parce qu'on est tous des enfants de Descartes. Causalité linéaire. Les deux sont possibles, mais si je pose la question en un seul mot, c'est comment ça se fait que tu es devenu voleur ? C'est quoi ce bordel ? Ouais, mais la question qui suit, c'est quelle éducation je lui ai donnée pour qu'il soit devenu voleur ? Ou d'autres questions, quel type de relation ai-je créé avec mon fils qui préfère me voler plutôt que de me demander ? S'il me le demande, je vais peut-être lui donner. Cette question, non seulement parle au-delà des apparences plus du parent que du gamin. Si je le crains de moi, je ne suis pas préoccupé qu'il est voleur. Je suis préoccupé du destin des 2 euros. Qu'est-ce que tu vas en faire ? T'es racketté à l'école ? C'est 1 kilo de bonbons, 1/4 de barrette de shit. Bon, à 5 ans, pas encore. Ouais. Mais je suis moins préoccupé qu'il est voleur, je suis plus préoccupé du destin. Eh bien, dans les addictions, la première question, c'est plutôt que pourquoi en un seul mot, comment faire pour que ça aille mieux ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire, nous ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et éventuellement, quand vous consommez, ça change quoi ? C'est-à-dire les buts, conscients ou inconscients. Et là, vous balisez les futurs entretiens. Parce que ça a un peu de sens, quand même. On a parlé de stress tout à l'heure. C'est assez fédérateur. Alors, certains distinguent avec l'anxiété, avec le mal-être, hein, la manière de, avec le fond dépressif éventuel, avec sa capacité à trouver sa place parmi son groupe d'appartenance, à l'adolescence ou après, etc. Et donc, ça vous aide à quoi ? Devinez la réponse des patients. Ah rien docteur, c'est nul. Pourquoi ? Parce qu'il pense que je pense que ce qu'il fait est nul. Donc il me sert la pizza qu'il pense que j'ai envie qu'on me serve. Donc ce que je vais vous dire maintenant, ça vaut son pesant de cacahuètes. 15 ans pour trouver des formules aussi simples que ça change quoi ? Je vous encourage de les écrire. Moi j'ai sué pour les trouver. C'est gratos. Ça change quoi ? Ça aide à quoi ? Ça permet quoi ? Ça soigne quoi ? Ça gomme quoi ? Parce que selon la question, vous avez des gens qui accrochent ou pas. Je répète, ça change quoi ? Ça permet quoi ? Ça évite quoi ? Ça gomme quoi ? Ça soigne quoi ? Et là, ah ben, ouais. Et si ça accouche pas vraiment ? En dehors de la question du plaisir et du fun à certains moments, il y a des gens qui me disent que des fois ça les aide à dormir. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de naturel timide. Et ça les aide, ça leur donne plus de confiance en eux. Il y en a qui distinguent timidité et confiance en toi. Il y en a qui disent que ça vient surtout dans les moments où on est déprimé. Ah ouais, ça c'est moi. Il y en a qui disent que quand il y a des contrariétés, des déceptions, des frustrations, c'est là qu'ils consomment davantage. Ah ouais, c'est normal. Bon, c'est comme ça pour vous. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, etc. Et vous avez 5 ou 10 items positifs pour quelqu'un qui vous avait dit « ça n'a rien du tout ». travaille à plusieurs niveaux. Vous envoyez des messages. Je vous considère pas comme un monstre, un ignare, un je sais pas quoi, un nul ou un con, je sais pas trop quoi. Il y a des choses là-dessous et on va réfléchir ensemble parce que si vous décidez de changer votre rapport au produit et que avant ça vous aide quand vous êtes stressé, quand vous êtes anxieux ou autre, comment vous allez faire? Si l'anxiété vous en a rien, c'est... et les réponses c'est pas toujours un médoc. On a parlé ce matin d'exercice physique. L'exercice physique, ça soigne plein de choses. De toute façon, si vous voulez vivre longtemps et vieux, un, il ne faut pas fumer. Deux, il faut faire de l'exercice physique. Trois, manger un peu moins. Quatre, dormir bien. Et se faire plaisir, en variant les plaisirs. Pour ceux qui ont des enfants à l'adolescence, comment les protéger un petit peu? Il n'y a pas un bouton où on appuie, ça y est, il doit les protéger des conduites addictives. Mais un des trucs, c'est montrer qu'on aime se faire plaisir, virgule, de manière variée. Les plaisirs monomaniaques, c'est pas top pour des risques futurs des conduites addictives. Donc, le fait addictif n'est pas réductible aux modèles médicaux. Il y a des gens qui s'en sortent tout seuls. Alors évidemment, nous, on les voit pas. Ils sont pas malades. Mais si vous vous baladez dans les groupes d'entraide de patients addicts rétablis, vous allez voir plein de gens qui racontent des histoires et ils ne sont pas passés par le système de soins. Et il y en a un certain nombre qui ne passent même pas par les groupes d'entraide, simplement en vieillissant, les choses changent, puis soit ils ralentissent leur consommation, soit ils abandonnent, ça ne les intéresse plus. Bon, si on peut éviter de passer 50 ans à s'embêter, embêter ses proches, c'est quand même parfois préférable. Donc il faut penser à ça, les modèles médicaux ne sont pas exhaustifs dans la compréhension de ce phénomène. Les sociologues travaillent là-dessus. Ouais, tout à l'heure, c'est un éducateur qui nous a parlé. Moi, je suis allé en formation de thérapie familiale avec des éducateurs, hein, qui étaient des sacrés thérapeutes familiaux systémiciens. Et donc, il faut garder que c'est un phénomène hétérogène. C'est subjectif. Si je fais une prise de sang, je ne vais pas avoir l'addiction. Si je fais une radio, une écho, je ne vais pas avoir l'addiction. C'est ressenti par la personne, et elle veut en parler ou pas. Et elle en a conscience ou pas. Et pour qu'elle ait envie d'en parler, il faut qu'elle ait un minimum conscience. Molière faisait dire à M. Jourdain qu'il faisait de la prose sans le savoir. On peut être addict sans le savoir. Alors en ce moment, vous n'êtes pas addict à l'oxygène, mais vous êtes accro, dépendant de l'oxygène, de cette pièce. Et pourtant, on n'y pense pas. On ne se dit pas toutes les deux ou trois secondes « Hé, n'oublie pas de respirer. T'es addict, t'es accro à l'oxygène. Hé, n'oublie pas de respirer. » Pourquoi on n'y pense pas?
C'est des choses simples. On ne cherche pas des choses compliquées.
Pourquoi on n'y pense pas? Pourtant, c'est vital. Ah, certains patients disent « Je ne sais pas pourquoi, consommer, c'est vital. »
C'est automatique.
C'est vrai que c'est automatique, mais c'est pas pour ça qu'on n'y pense pas. Quand tu as envie de pisser, c'est une contraction automatique de ta vessie et tu y penses.
Parce qu'on
y pense. C'est automatique. Et quand tu as envie d'aller à la selle, tu as une contraction automatique du rectum et tu y penses et tu y vas.
Mais justement, parce qu'on n'y pense pas, c'est naturel.
Non, c'est naturel, mais c'est pas pour ça qu'on n'y pense pas. Les amis, on n'y pense pas parce qu'il y a de l'oxygène dans la pièce. S'il n'y en avait pas, qu'est-ce qui se passerait? On serait en manque et on y penserait tout de suite. Donc la confrontation au manque est une expérience qui peut ouvrir les yeux sur la dépendance. Vous voulez savoir si vous êtes accro à votre bagnole? Ben vous le saurez le jour où on vous la vole, elle est en panne, vous êtes sur le périphérique, là en panne, sur la roucade, pardon. Votre chérie part en vacances une semaine tout seul sans vous. Il doit rentrer au bout d'une semaine. Il doit prendre l'avion le samedi matin et le vendredi soir, il nous appelle. Je ne peux pas rentrer, il faut que je reste. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au téléphone? Reste 6 mois si tu veux. Vous pouvez lui dire, oh quand même, tu me manques mon chéri. L'expérience de l'absence. Alors, où est-ce que je vous amène, puisque c'est une des questions qu'on m'a posées, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut-on susciter le désir de consultation? Ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce que il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir addict ? Je veux devenir addict. Donnez-moi des conseils. Je sens que ça vient là.
Je veux devenir addict. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut expérimenter le manque.
Ah non, ça c'est. Je suis déjà addict. Je veux devenir.
Il faut se forcer. Il faut consommer.
Et ça suffit pas.
Ouais, je sais pas.
Ce soir, vous allez peut-être prendre une bière.
Vous êtes prêts ? Pour devenir addict, c'est vachement compliqué. Il faut consommer et persévérer. Vous vous souviendrez ? C'est pas compliqué, là. Hein ? Après, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui doivent persévérer un peu plus que d'autres. Ça dépend des contextes. Après, il y a éventuellement dans ma personnalité des facteurs fragilisants. Si je suis d'un naturel impulsif, si je suis... ces enfants qui vous déménagent l'appartement en 5 minutes, là. Autrefois, on appelait ça hyperkinétique, maintenant, TDAH plutôt. Si j'ai d'un tempérament, si je suis d'un tempérament anxieux, si je manque de confiance en moi, si je manque de relations sociales dans lesquelles j'ai ma place, je suis bien, si, ça peut être des facteurs fragilisants qui vont favoriser. Hein, mais quand même, il faut consommer. C'est-à-dire qu'il faut, en général, beaucoup de volonté pour devenir addict. D'ailleurs, en complément de ce que disait Marc tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut sortir, c'est plus une envie, c'est un besoin, donc la volonté n'est plus impactante. Mais contrairement aux idées reçues, moi je pense que les addicts ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté pour consommer. Et quand ils ont pigé ça, c'est-à-dire que partout on leur dit, j'ai des patients moi, qui m'ont demandé, docteur, ça existe la volonté en patch ? D'autres, ça existe, la volonté en pilule, enfin, en cacheton. Souvent. Et au début, je trouve que c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Pas une blague parce que tout le monde leur dit ça. La famille dit ça, les amis disent ça. Oh, t'as pas de volonté, tu t'en sortiras jamais, tel père, tel fils. Mais si, j'ai un patient qui m'a dit un jour une phrase qui m'a mis un moment avant de comprendre. Il me dit, pendant longtemps, j'ai pensé que pour m'en sortir, il fallait de la bonne volonté. Un jour, j'ai compris qu'il fallait de la volonté bonne. La volonté peut être définie comme l'énergie que je mets au service d'un but. Si mon but, c'est de consommer, j'ai beaucoup de volonté. Si un jour, mon but, c'est de consommer moins ou pas consommer, et que je mets la même dose d'énergie, il y a des chances que j'avance positivement. Donc, rassurer les patients, il n'y a pas besoin de comprimer ou de patch de volonté. Donc, pour s'en sortir, alors ça c'est pour devenir addict, il faut consommer et persévérer au moins un peu. Pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Essayer et persévérer. On est d'accord, Marc ? À peu près. Mais pour s'en sortir, il y a 3 étapes préalables. Premièrement, il faut en avoir un minimum conscience. Il est évident que je ne pourrais pas me sortir d'une dépendance que je ne sais pas que je l'ai. Deuxièmement, il faut qu'elle me dérange un minimum. Et elle me dérange suffisamment, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire chacun va mettre quelque chose qui lui est propre. Me déranger suffisamment, c'est subjectif. Je vois les fumeurs, mon voisin a eu un cancer bronchique, là, du fumeur, le boulet est passé très près, je vais faire quelque chose. Avant, je montais les escaliers 4 à 4, je ne suis pas essoufflé. Maintenant, 1 à 1, je suis essoufflé. Ça change la donne. Avant, foutre 10 euros par jour pour mourir plus vite, c'est-à-dire une assurance mort, je vais mettre 10 euros par jour pour avoir des économies, une assurance vie. Donc, avant, je trouvais que dépenser 10 euros par jour pour mourir prématurément, c'était, pourquoi pas. Aujourd'hui, je trouve que c'est con. Voilà, je trouve ça con aujourd'hui. D'ailleurs, derrière cette expression, il faut que ça me dérange suffisamment, chaque être humain va mettre quelque chose qui lui est propre. Souvent, les années passant, la dose de plaisir a bien diminué. Mais gardez-la présente à l'esprit parce qu'elle est là. Et dès qu'on modifie des choses, la nostalgie du plaisir, du produit, peut revenir. Et la frustration que les autres se donnent ce plaisir, éventuellement mon groupe d'appartenance continue ce plaisir et moi non. Même si au moment où on voit les gens, la dose de plaisir a bien diminué, parfois il n'y en a plus du tout parce qu'il n'y a que du déplaisir. Mais c'est enregistré au fond, hein, notre cerveau humain est programmé pour enregistrer les expériences de plaisir. Quand on a vécu un orgasme la première fois, à quoi on pense pas longtemps après? Quand est-ce que je recommence? Ça nous aide, pour ceux qui acceptent de faire des gosses, à ce que l'humanité survive. Ça nous alimente aussi pour nous alimenter et pas mourir. Donc, un être suffisamment conscient. Deux, il faut que ça me dérange. Trois, il faut que je sois un acteur fort du processus de changement. Soit l'acteur principal, soit un co-acteur. Ça va être difficile que je sois 100% passif là-dedans. Alors, qu'est-ce qui peut éventuellement aider pour susciter le désir de consultation? En général, c'est des problèmes, les amis. C'est pas du Walt Disney. En général, c'est des emmerdes, des soucis, des préoccupations, des problèmes, des complications psychologiques, physiques, sociales, relationnelles, judiciaires. Pour l'alcool, le premier motif de consultation chez les hommes, vous avez une idée de ce que c'est? Alors je l'entends près de moi, c'est le retrait du permis de conduire ou l'annulation pour récidive. C'est triste à mourir pour le soignant. Je suis, on passe notre vie à dire aux gens, vous savez, le capital santé, c'est important. Rien à foutre. J'ai vu des gens qui ont perdu 3 épouses. Ils perdent leur bagnole, je vais consulter. Je n'ai pas fait exprès d'être un garçon, mais quand j'entends ça, c'est après on va critiquer, les gens, oh, combien de chameaux? Ici, c'est combien de bagnoles? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des emmerdes. C'est-à-dire que la balance entre les avantages et les inconvénients, il faut que ça penche un peu du côté des inconvénients. Problème pour nous. Si nos stratégies d'accompagnement, plus que de prise en charge, ont comme effet principal de rendre plus confortable l'addiction, peut-être ça va freiner le désir de changement. Alors, je ne suis pas en train de dire créer plein de problèmes aux addicts, ils sont assez grands pour se les créer tout seuls. Mais quelquefois, c'est urgent d'attendre que ça mijote un peu pour que la personne puisse faire un lien entre ce qui se passe et les comportements antérieurs pour qu'elle ait l'idée de les changer. Alors, ça, je pense que chez les cérébraux lésés, ça va être plus compliqué. Puisqu'il faut faire un bilan et se projeter, etc. Alors, je n'ai pas dit en introduction, mais. Cérébraux lésions addiction, je crois qu'il y a presque tout à découvrir, à faire. C'est pour ça que j'étais invité par le CLANA là, pour réfléchir, un groupe de réflexion là-dessus, volontiers. Parce qu'ils ont dit, mais toi, tu as l'expérience. Je dis, moi, les cérébraux lésés, je pense que j'en ai soigné une quinzaine dans ma vie. Et alors, zéro succès. Et on m'a répondu au téléphone, on a besoin qu'on nous équipe en temps de ça. Pour se culpabiliser un peu moins. Donc c'est un peu à construire en tous les cas les systèmes que moi j'ai mis en place sur Jean-Jacques. Ça marche pas, hein. C'est chez les gens cérébraux lésés. Après on m'a dit aussi que les cérébraux lésés que j'ai eus c'était peut-être les plus graves entre guillemets puisque tout le monde s'est cassé les dents donc on les envoie avec l'espoir que. Tant mieux si c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Pas créer des problèmes mais parfois réfléchir à résoudre ces problèmes à la place.
Combien j'ai de temps?
5 minutes.
C'est vrai? Oh là! Oui. 8 minutes. Négociation. Qu'est-ce qui.
L'addiction au micro.
Qu'est-ce que je peux faire? Essayer de mettre de la lumière sur les conséquences entre des problématiques vécues par le patient et qu'à l'origine, il y a quand même cette conduite addictive qui peut être responsable. Moi, je préfère que la personne on lui enlève son permis plutôt qu'elle ait un cancer de la gorge ou du foie et qu'elle meure. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'éthique, on en va parler dans 2 minutes. 2 minutes. À tous les cas, c'est pas du tout évident de susciter le désir. Et le désir, ça veut dire que j'ai conscience. Et qu'est-ce qui me permet d'avancer dans cette prise de conscience? On l'a dit. Le vécu, l'expérimentation sensorielle d'avoir manqué. Si j'ai pas de dépendance physique, c'est surtout des pensées et du craving. Si j'ai une dépendance physique, ça peut être des tremblements, des sueurs, plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qui peut aider dans la prise de conscience? Si la personne veut contrôler, les expériences de contrôle répétées. Avec chaque fois un échec au bout. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider maintenant, etc. Dites-vous que même si vous êtes très désirant que la personne aille mieux, vous l'êtes moins que la famille. Est-ce que le désir de la famille que cette personne avance a un impact sur son rétablissement? Pas du tout. Parce qu'en addictolande, ce que la famille pense aide n'est pas du tout vécu comme aide. Elle me fait chier. C'est mon ennemi principal. Elle planque le produit, elle le jette. Ça coûte cher. C'est scandaleux. Donc, même nous, avec un cœur comme ça, on a moins avec la famille. Et il ne faut pas penser que c'est parce que j'ai envie d'aider que c'est perçu dans ce monde-là comme de l'aide. Ça, c'est à construire. Ce n'est pas un donné. Et donc, si vous accompagnez les familles, je vous encourage. Un des chapitres de travail avec les familles, c'est les aider à accepter ce qu'elles savent. Elles savent qu'elles sont impuissantes, elles ne peuvent pas l'accepter. Aider la famille à faire son deuil de toute puissance à contrôler l'autre. Éthique et dépendance. Ben, je vais aller vite. Pour moi, ça résume un peu la question de la mise en danger de cette personne, d'elle-même, de sa famille ou de la société. C'est-à-dire que lorsque la consommation est arrivée à un point qu'il y a un danger vital pour cette personne, ou elle a mis en place des comportements graves pour elle-même, pour autrui, qui risquent de se terminer au cimetière, là, la question de « on va attendre, hein, qu'il ait conscience, etc. » Non, parfois il faut intervenir. Alors, ça peut être hospitalisation sous la contrainte. Hein. SPDT, SPDRE... La question devient au bon moment et pour la bonne durée. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sevré, Marc en a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, qu'on est tiré d'affaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, si j'ai décidé de ne pas consommer, de ne pas consommer. Ça, c'est un truc que je n'ai pas le temps de développer dans l'une qui reste. Les années passant, il faut des années pour devenir addict, des années pour ouvrir les yeux, des années pour déclencher un processus de soins, des années pour que ce processus de soins ait réellement amélioré ma vie. Il faut s'inscrire dans un temps qui n'est pas notre temps d'aujourd'hui. En 5 minutes, on est au bout du monde avec le téléphone ou même en visio. Et donc, il faut accepter cette temporalité. Et la question donc de l'éthique, c'est oui, mais là, on ne peut pas attendre qu'ils nous demandent une forme d'aide, etc. Donc on a le droit. La question devient, pendant cette brève hospitalisation sous contrainte, il est bon de rencontrer ou un addictologue ou un patient rétabli, ou les deux de préférence. Il est bon d'avoir des entretiens avec la famille. On en parlera davantage de la discussion. Addiction et... handicap et addiction, un cercle vicieux. Encore une fois, le texte n'est pas de moi. Je ne dirais peut-être pas comme ça, mais je dirais une double problématique qui risque de s'alimenter réciproquement. Parce que déjà, une addiction, c'est complexe. Et une addiction avec handicap, c'est complexe, complexe. Et donc, l'intérêt du patient, je crois, c'est qu'on bosse ensemble et qu'on échange. Je pense que là où va se poser... La problématique de la pérennisation du trouble, c'est tous les troubles cognitifs, parce qu'il y a des produits qui vont majorer les troubles cognitifs. Si le patient cérébralisé a des troubles cognitifs, ben, ils peuvent être majorés par l'utilisation du produit. Et donc, la prise de conscience, la fin de l'apostrophe, apsychognosie, asomatognosie, achronognosie, asomatognosie, tout ça va être alimenté par la poursuite du produit et par les troubles cognitifs liés à la pathologie somatique elle-même. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit un cercle vicieux au sens où voilà, c'est plié, ce n'est pas la peine de se battre, mais ça va compliquer les choses. Et je pense, je suis moins optimiste que Marc sur les médicaments, ça dépend lesquels, je le suis à 100% tout ce qui est les traitements substitutifs, que ce soit la nicotine, les opiacés, etc. Pour l'alcool, je suis moins optimiste que lui. Mais je pense que les médicaments auront peut-être un peu plus de place dans ce que je peux en appréhender comme ça, avec des personnes cérébralisées dont l'handicap relationnel, cognitif, etc. est tel qu'on va avoir du mal à attendre indéfiniment des choses qui peut-être ne viendront pas. Alors je pourrais vous saouler encore pendant 3 heures, mais ce n'est pas le but, c'est plutôt de vous mettre un appétit pour les questions. Merci de votre attention.